Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? Une grande question. C'est une très très grande question. Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? C'est de, sans être militant, sans idéologie, sans baratin et sans langue de bois, essayer à mon petit niveau, au niveau de ma vie, par rapport à mes enfants, par rapport à mon travail, par rapport à l'éducation, par rapport à l'éducation de mes enfants, je parle, de changer les choses. Et sans prétention, je le dis bien, sans prétention.
On peut le faire avec prétention aussi.
Oui, mais c'est pas mon genre. J'aime bien les gens prétentieux, j'en connais. Mais c'est pas mon genre, malheureusement. C'est un vrai moteur aussi, les gens prétentieux, ça leur donne, ça donne une force.
Bonjour, avec la complicité du Centre interculturel de documentation, nous accompagnons dans la rue Mohamed Ulad, le réalisateur avec Isabelle Weckstein, d'un film documentaire titré « Les Français, c'est les autres ».
L'influence de l'œuvre de Sartre sur votre travail, votre réflexion?
Je dirais presque aucune, parce que je suis plutôt cinéaste. Je ne suis pas philosophe ni comme on dit, un intellectuel. Mais pas vraiment, je suis plutôt influencé par le cinéma, par la vie, par la littérature surtout.
Quand je lis Les Français c'est les autres, je pense l'enfer c'est les autres.
Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais c'est un petit clin d'œil, c'est un peu facile. Mais ça ne me donne pas non plus, ça me donne aucune comment dire, compétence pour parler de Sartre. C'est un peu ça, c'est l'idée. Un petit clin d'œil.
Un gros clin d'œil.
Un petit gros clin d'œil, alors disons. Comme vous êtes têtu et demi.
Le projet de ce film?
C'était pas au départ un projet de film, c'était des interventions que je faisais avec ma collègue et mon amie Isabelle Weckstein. On intervenait dans des lycées de banlieue pour lutter contre les préjugés, mais de façon, enfin je veux dire, une autre façon. Pas façon, j'allais dire, sans mauvais esprit, SOS racisme, genre le racisme c'est pas bien. Tout ça, c'était pour donner la parole à ces jeunes, essayer de comprendre ce qu'ils ont derrière la tête, essayer de les faire bouger, de les pousser dans leur retranchement et tout ça. Et en fait, petit à petit, on a eu cette révélation qui était que ces jeunes ne se sentaient pas français. Donc on a décidé d'en faire un film, dans le prolongement de notre travail, j'allais dire, d'association, enfin d'intervenants de la société civile. Mais au départ, ce n'était pas un film. Ce qui a déclenché l'idée d'un film, c'est vraiment cette question. Quand je posais la question, quand je demandais à ces jeunes qui est français, tout le monde levait la main et qui se sent français, personne, aucun bras ne se détachait, on a eu envie de faire ce film. Il faut dire qu'il y a eu aussi, ça faisait suite au débat de Sarkozy sur l'identité nationale. Donc on a eu aussi envie de faire notre débat sur l'identité nationale à notre façon.
Au départ, vous êtes allé à la rencontre de plusieurs classes, dans plusieurs établissements. Il n'y avait pas de caméra?
Au départ, non. Non, non. En fait, justement, Isabelle Weckstein faisait ça depuis longtemps, sans moi. Et moi, je lui proposais justement qu'on fasse ça avec une caméra. Parce que l'idée, c'était qu'on puisse toucher le maximum d'élèves, le maximum de jeunes possible. Parce que si on va dans une classe, si on fait une intervention, elle n'a pas beaucoup de temps, moi non plus. On a beaucoup de travail, comme tout le monde. Mais si on s'arrête juste à prêcher la bonne parole et qu'on touche un élève, peut-être deux, peut-être personne, ce n'était pas efficace. Donc j'ai proposé qu'on les filme et éventuellement, avec l'éducation nationale ou pas, de mettre ça sur Internet, de créer un site. Et c'était ça l'idée au départ. Donc on les filmait quand même depuis le début.
Le fait que ce soit réalisé, tourné dans une classe, est-ce que ça a une influence sur le comportement des élèves? Parce que je les trouve très sages.
Pour moi, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'ils ne sont pas si sages que ça. Vous avez remarqué, vous êtes un professionnel, qu'on a essayé de les rendre un peu plus sages en leur donnant un micro parce que sinon, ils parlent tout le temps. Donc, le fait d'avoir un micro avec une espèce de HF qui tourne, ça les rend un peu plus sages. Mais non, ils n'étaient pas particulièrement sages ni pas sages. Ça s'est plutôt bien passé. Mais ce que vous voyez, c'est quand même le résultat de beaucoup, beaucoup de rushs. Voilà, il y a le résultat d'un montage de plusieurs heures de tournage.
J'imagine.
Oui, oui. Pardon, excusez-moi, je vous raconte une évidence. Mais...
Non, non, c'est bien de le préciser.
En fait, ils étaient plutôt, je dirais plutôt sages, parce qu'ils étaient un peu désarçonnés par notre profil. Puisqu'on n'est pas des profs, on vient de milieu, Isabelle Weckstein est avocate, moi je suis réalisateur. Vous avez vu le film, donc vous avez vu cette séquence où pour les mettre dans le bain, pour essayer de se mettre tout de suite dans le bain, on leur dit qui est juif, qui est arabe, il y en a un qui est musulman, l'autre qui est juif et tout ça, donc ils ne savent pas qui est qui. Moi je suis le juif parce que j'ai un gros nez ou à cause de ma coiffure et tout ça. Donc en fait, ils étaient un peu désarçonnés parce qu'on n'est pas des profs, on vient d'ailleurs et donc ça les a un peu, disons, perturbés et assagis un petit peu.
Beaucoup de nos jeunes élèves nous ont dit que l'une des raisons qui les empêche de se sentir français venait de leurs habitudes culinaires. Aussi, nous avons voulu les titiller en leur faisant vivre une expérience décalée avec une vraie Française, comme ils disent, coach en savoir-vivre et qui leur apprendra les bonnes manières à table. Se sentiront-ils un peu plus français à l'issue de cette expérience ?
Alors, comment on s'assoit ? C'est quand même à l'homme de tenir le fauteuil de la femme pour l'aider à s'asseoir. Si ici, on considère que je suis chez moi et je vous invite à dîner, qui va s'asseoir le premier ou la première ?
Je dirais vous inviter.
Non.
Eh bien non, ce sera moi la première qui vais m'asseoir. À partir de ce moment-là, les femmes s'assoient, les hommes en dernier. Autour de cette table, moi qui suis la plus âgée, je suis la seule à avoir le droit de mettre un coude comme ça sur la table.
Pourquoi les femmes, elles ont le droit et pas les hommes ?
Les femmes ont le droit, les femmes mariées ont le droit de faire ça discrètement, élégamment, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à Vachy, hein. On a le droit, on fait discrètement. C'est pour montrer les bagues, donc le niveau social. La femme, depuis toujours, est terriblement importante. C'est la plus importante. Donc c'est elle qui entre la première dans une pièce, c'est elle qui s'assoit la première.
Oui. Mais c'est ce qu'on apprend là, c'est plus beaucoup pratiqué au jour d'aujourd'hui.
Toujours pratiqué. Ah non, non, moi je vous apprends du 2015. Hein. C'est pas quelque chose qui est inventé.
L'idée de la coach.
Ah, qu'est-ce que vous avez comme problème avec la coach ?
Aucun. J'ai appris comment bien me tenir à table et comment tenir une fourchette parce que je ne savais pas.
Ben moi non plus. Ben vous voyez que c'était pas du tout. Et non plus d'ailleurs. Et je vois pas, en fait. Ça pose un vrai problème, ça pose une vraie réflexion, cette question, parce que les gens se disent, mais j'ai l'impression que ça procède d'un espèce de, j'allais dire de racisme, non, mais d'un espèce de préjugé à leur égard, à l'envers. C'est-à-dire, vous dites, mais de façon presque ironique, et comme moi je ne savais pas comment on se servait d'une fourchette, enfin de tous ces instruments, mais je m'en fiche, ça ne m'empêche pas de vivre, ou d'aller chez des gens bourgeois ou pas bourgeois, ou tout ça. Mais eux, ils n'arrêtaient pas de parler des habitudes culinaires, du petit déjeuner, comme étant un préalable au fait de devenir français, que les Français, ce sont ceux qui prennent les petits déjeuners avec leurs parents. C'est les Français, c'est ceux qui, comment dire, qui mangent avec une fourchette. Donc, sous-entendu, si on mange dans un même plat, dans un seul plat, on n'est pas français. C'est pour ça que c'est un petit clin d'œil. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils se sont très bien sortis. Et ils ont la même réaction que vous, même en plus ironique. C'était presque un test de leur dire, voilà, allez, on va vous apprendre ce que vous pensez ne pas savoir sur les habitudes culinaires. On va aller à l'extrême. Et en fait, finalement, ils ont dit, ben non, ça ne nous intéresse pas, c'est ridicule, c'est grotesque, on s'en fiche. Voilà, c'était un peu un petit clin d'œil, un peu une séquence humoristique qui, malheureusement, pour certains, elle dévise cette séquence parce que pour certaines personnes, elle n'est pas ressentie comme ça. Mais peut-être parce que c'est une erreur de mise en scène, parce qu'on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas plus. S'il y avait eu 2-3 séquences avec la même tonalité, on l'aurait mieux admise, enfin on aurait mieux compris cette séquence.
Elle manquait de vouvoiement, cette séquence, c'est tout. Hein.
À quel niveau ? De la part de qui, vous voulez dire ?
De tout le monde.
Oui. Bon, moi, ce que je trouve drôle, c'est la dame qui est ridicule, parce que de la part des enfants, moi, je trouve qu'ils se sont... Sinon, je ne l'aurais pas gardé. Ils disaient, même si... Je trouve leur réplique hyper drôle quand ils disent, mais madame, ils avaient du courage à l'époque de faire ça. Et la dame qui leur dit, non, moi, je vous apprends du 2015. C'est du 2015, c'est aujourd'hui. Et puis, il y a un débrief derrière. Et puis, bon, il y a une voix off avant. Malheureusement, elle est un peu trop loin. Elle est trop... Elle n'est pas assez proche de cette séquence pour qu'on comprenne l'enjeu de la séquence. Mais c'est vrai que c'est une séquence qui fait débat.
Être français, c'est se percevoir blanc. J'ai relevé ça dans un témoignage d'une des élèves.
Oui, c'est la plupart d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'on dit les Français...
C'est pas être blanc, hein, c'est se voir comme blanc.
C'est se voir comme blanc, parce que c'est un peu, justement, la honte de soi, la culpabilité de trahir les parents, la culpabilité de trahir ses origines, même si on ne sait même pas ce que c'est que ses origines, on ne les connaît pas. La plupart de ces jeunes ne parlent pas la langue de leur pays d'origine, donc... C'est très complexe en fait, il n'y a pas une seule réponse. C'est pour ça qu'on tenait vraiment avec Isabelle, avec Shine, à faire un film aussi complexe que possible et rendre un constat aussi complexe que possible, dans le sens où il n'y a pas une seule réponse. Il y a une jeune fille par exemple qui nous dit « Moi je me sentirai française quand j'aurai mon appartement, quand j'aurai mon chez-moi ». Si on regarde un peu ça de près, ça veut dire qu'en fait aujourd'hui je ne me sens pas française parce que je vis chez mes parents. Avec les traditions, avec le couscous, avec la décoration, les fleurs en plastique, l'akbar en dorure. Et donc, elle ne peut pas s'autoriser à se sentir française, car je suppose, qu'elle aurait l'impression qu'elle trahit ses parents, ou le mode de vie de ses parents, ou de son pays d'origine. Et voilà, donc il y a presque autant de réponses que de petits groupes ou de jeunes. Mais ce qui revient le plus, vous avez raison, c'est cette histoire de couleur, cette histoire de français de souche ou pas, et cette histoire, vous ne me regardez pas comme français, vous les français, vous ne me regardez pas comme français ou comme française, et je ne vais pas me sentir français. Voilà, c'est presque une façon de renvoyer cette défiance vers les français, entre guillemets, de leur point de vue.
Il y a une autre discussion où là les avis sont... partager au sujet de l'humour et des caricatures.
Moi, je suis très très clair dans ma tête sur ça. Je pense qu'on peut rire de tout. Voilà, on est dans un pays où la presse est libre et je pense que Charlie a pas fait, je sais pas, une 7, on le dit d'ailleurs dans le film, 7 couvertures sur l'islam ou sur Mohamed ou sur les musulmans.
Oui, mais les jeunes,
on a fait beaucoup
c'est
plus.
Pas si clair. Hein.
Oui, mais les jeunes, c'est pas si clair justement. Mais oui, voilà, justement, ça fait partie de la problématique. C'est pour ça qu'on a fait ce film. Mais de leur côté, ce n'est pas clair du tout, parce que pour eux, on s'attaque à la religion, on s'attaque au sacré, on s'attaque à l'islam, alors que ce n'est absolument pas vrai. Et ça montre aussi à quel point notre travail reste un peu fragile, parce que alors qu'on avait l'impression d'avoir réussi un peu à redresser la barre, à avoir fait un travail même un peu fragile, les attentats de Charlie... sont venus pour nous montrer à quel point c'était très, très fragile, comme un château de sable, un château de cartes qui retombe et qu'on avait l'impression que c'est... Voilà, comme le disent d'ailleurs les profs, c'est un éternel recommencement.
Je voulais dire qu'il n'y a pas que les élèves, il y a les professeurs aussi qui s'interrogent sur quels doivent être leurs rôles, comment ils sont armés, pas armés.
Moi, je trouve qu'ils sont...
Ils sont plutôt bien, hein.
Ils sont plutôt très bien même, ils sont très armés et tout ça. Mais c'est vrai que, comme ils le disent eux-mêmes, quand on a 50 minutes de cours à faire, on ne sait plus si on doit faire un cours sur le civisme, un cours sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur ceci, sur là, sur le comportement, sur tout type de préjugés. Ils ne savent pas, ils sont perdus, ils ne sont pas assez formés, il n'y a pas assez les moyens. Alors, Ils sont formidables. Nous, ceux qu'on a rencontrés, vraiment, de façon générale, ils sont incroyables. Ils donnent de leur temps, de leur vie, de leur âme. C'est sur eux que j'ai envie de faire un film maintenant. Il faut leur rendre hommage à ces profs. Ça ne suffit pas, malheureusement. Ça ne suffit pas parce qu'il faut... Je ne sais pas comment dire ça, mais il faut un plan Marshall pour l'éducation nationale.
Nous accompagnons dans la rue Mohamed Hulad.
Film, c'était un film sur un écrivain américain qui s'appelle Paul Bowles, qui vivait à Tanger. Et j'avais 20 ans, je crois. 21, non, 20 ans. Non, 20 ans. Et j'ai lui demandé, j'ai commencé. En plus, le film, c'était avec la bande 625, le cinéma et tout ça, avec une équipe qui est venue. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, j'ai rien à dire. Donc là, le cauchemar qui commence. Et en fait, il avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais c'est là où j'ai compris que c'est tout un travail de faire des films, de faire parler les gens.
Mais là, il faut du temps.
Ah, il faut du temps. Il faut toujours du temps. C'est pour ça que moi, je fais toujours que des films avec du temps. Je ne peux pas. J'ai fait un film, pas l'avant-dernier, mais l'avant-avant-dernier, qui s'appelle Hercule contre Hermès, et qui est un film que j'aime beaucoup, moi, personnellement. C'est la première fois que j'aime un film que j'ai fait, parce qu'en général, je suis très fâché avec les choses que je fais. Mais c'est un film qui parle d'un certain monsieur Hermès, donc un héritier de la famille Hermès, qui a acheté pas mal de terrain dans le nord du Maroc, chez moi, là où je viens, à Zila, et un paysan qui ne veut pas vendre son terrain. Donc il a à peu près, je ne sais pas, 400, 500, je connais pas exactement la superficie de ces terrains, mais il se trouve qu'il y a un paysan qui habite en plein milieu de ces terrains, qui a une terre, qui a un terrain de 3 hectares, peut-être un peu moins, mais qui ne veut pas vendre, et qui a vécu un cauchemar depuis 10 ans, donc j'ai fait un film sur ça, Hercule contre Hermès. Donc ça me définit. Je dis ça tout en regardant ma carte d'identité de très près, que je suis fier d'être un enfant de la République française. Mais en même temps, je n'ai jamais eu de frustration par rapport à mon pays d'origine, auquel je me sens aussi fidèle. Je pense que, je ne sais plus, je crois que c'est Daniel Siboni, le psychanalyste, qui disait que l'entre-deux est une place, c'est-à-dire... Et excuse-moi d'être vulgaire, c'est d'avoir le cul entre deux chaises ou d'être assis entre deux chaises. C'est une place, c'est pas une non-place. Et si on le vit bien, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai essayé de transmettre à ces élèves. Parce qu'ils me disaient par exemple, bah oui, mais pour vous ça va très bien monsieur, vous êtes cinéaste, vous gagnez bien votre vie. J'ai dit, bah non, d'abord qu'est-ce que vous en savez? Et deuxièmement, on était à Noisy-le-Sec, je disais, mais moi j'habitais là, je parlais à peine français quand je suis arrivé en France. À 18 ans, à 19 ans, après le bac, vous parlez français depuis que vous êtes né. Vous avez les papiers, moi, je ne les avais pas. J'ai failli me faire refouler plusieurs fois, enfin, renvoyer au pays plusieurs fois. Troisièmement, pour payer mes études, je me réveillais parfois à 2 heures du matin pour aller au marché de Romainville, qui était la ville juste derrière. Donc là, je sentais un peu, genre, respect, monsieur. Pourquoi on parle de cela? Oui, parce que je disais que pour moi, la question ne se pose pas. La question de la double nationalité, de la double appartenance n'est pas un problème. C'est vrai que je me sens très proche de mon pays, je partage ses valeurs, je partage ses bêtises, je les combats, je les... Voilà, mais... La laïcité ne peut pas non plus se transformer en religion. La laïcité n'est pas faite pour combattre les religions, pour combattre les différences. La laïcité est faite pour... a été inventée pour qu'on puisse tous vivre ensemble, qu'on soit athée, agnostique, juif, musulman, et sikh, que catholique, peu importe. Or, j'ai l'impression qu'en ce moment, que la laïcité devient presque un dogme, devient presque une religion contre les religions. Alors, ça, je ne dis pas que ça me pose un problème, parce que, encore une fois, je le précise, et j'adhère à ce concept de laïcité, mais je pense qu'il ne faut pas que ça se transforme en religion.
Est-ce que vous vous sentez français?
Ouais, ouais, on va dire. Par moment et parfois pas.
Bon. Et pourquoi?
On me fait sentir quoi.
Et on vous le fait sentir comment?
Partout, par tes regards en fait. Comment dire, on sait qu'on voilà, on n'est pas chez nous quoi. Ça se voit.
Avec Mohamed Oulad, qui est réalisateur. Est-ce qu'on vous a déjà demandé si vous étiez française?
Non, pas récemment. Pas en France, en tout cas.
Jamais?
Je ne pense pas. Peut-être quand je voyageais ailleurs. Ça paraît logique. Ailleurs qu'ici, oui.
Pour vous, êtes-vous française?
J'en suis fort aise.
En fait, j'ai fait un film qui s'appelle Les Français, c'est les autres, qui passait sur France 2, où je demandais à des jeunes issus de l'immigration principalement, dans un lycée à parisien, enfin pas parisien, en banlieue parisienne. Et c'était assez étonnant parce que je leur demandais qui est français. Ils sont tous français, quasiment tous levaient la main. Mais quand on leur demandait qui se sent français, personne. Et donc je leur avais donné une petite caméra pour aller eux-mêmes interviewer ce qu'ils appellent eux des Français, c'est-à-dire pour eux les Français de souche, et leur demander est-ce que vous vous sentez français.
Pour vous, c'est quoi d'être français? C'est quoi d'être français? C'est d'être fidèle à la République, de respecter ses lois. Et d'aimer tout ce qu'elle nous donne, d'être reconnaissant à tout ce qu'elle nous donne. Voilà.
Non, mais c'est quoi pour vous être français?
Je pense que la définition est différente pour tout le monde, je ne sais pas. C'est peut-être pas à moi qu'il faudrait le poser, j'ai 75 ans et j'ai toujours été, je veux dire, bon, c'est peut-être plutôt, excusez-moi, mais des gens comme vous.
D'accord. Et est-ce que vous.
Et vous, c'est quoi?
Pardon?
Et vous, c'est quoi?
Ben moi, je me sens française.
Et ben voilà, et ben c'est, voilà, vous avez les réponses, vous. Et c'est pour vous que c'est important. Moi, j'ai fini.
D'accord,
j'ai presque fini.
Merci, madame.
À tous ces jeunes, finalement, on leur envoie cette question. Vous sentez-vous français? Il y a plein de personnes qui vivent en France depuis longtemps.
Je ne se pose pas la question. Oui, mais en fait, vous avez entièrement raison. Le fait de poser la question ou de se poser la question ou qu'on leur pose la question montre qu'il y a un problème. Montre que justement, comme je disais tout à l'heure, tous les mécanismes d'appartenance à une seule communauté sont un peu en panne. Et c'est justement cette panne-là qui fait qu'aujourd'hui, on se pose la question, on leur pose la question ou qu'ils se posent la question. Sinon, ça viendrait à l'idée de personne de se demander qui est français, qui n'est pas français. C'est une question, d'ailleurs, quand il l'a posée dans la rue à Paris, ils étaient étonnés. Que les gens soient étonnés de la question. Les gens n'avaient pas de réponse toute prête, c'était assez étonnant. Mais ça montre justement qu'il y a un problème, qu'il y a un vrai problème profond, le fait qu'on en arrive là, qu'on se pose la question ou alors qu'ils se posent eux-mêmes la question.
Ces deux jeunes, donc vous leur donnez micro et caméra. Quelque part, vous leur donnez à ce moment-là une raison d'agir, une place.
C'est exactement ça. L'idée de leur donner la caméra, c'est comme si c'était une façon de leur dire, voilà, prenez votre destin en main, allez-y. Voilà, soyez voyeurs, soyez positifs et soyez actifs surtout. Arrêtez de subir. Et justement, ils étaient très, très étonnés. C'est les trois qui ont le plus changé parmi le groupe, ou les quatre ou cinq à qui j'ai donné la caméra. Ils étaient très, très heureux de cette expérience. Et d'ailleurs, ils disaient que ça les a fait sentir plus français. C'est parce que tout d'un coup, c'est eux qui posent le regard. Ils sont plus l'objet du regard, mais c'est eux qui regardent. Donc il y a une espèce de démarche un peu plus active que d'habitude.
Ils aperçoivent que finalement on peut discuter, que les gens sont sympas.
Et... Que les gens sont normaux, qu'il n'y a pas d'un côté les Français qui sont là-bas, qui sont tous méchants. Et nous, on est là, dans un ghetto, et on est des victimes, et ce qui n'est pas non plus faux. Mais ils se sont aperçus que les choses sont beaucoup plus complexes et que les gens ne leur veulent pas forcément du mal. Voilà.
Quand vous dites, ça c'est à la fin du film, je ne sais pas, je ne mesure pas trop s'ils ont changé ou pas changé. Qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous espériez?
En fait, c'est pas. Il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de façon, j'allais dire, objective de mesurer. Ce que j'attendais, c'est de voir un peu si à la fin du film, s'ils se sont un peu plus délestés de leurs préjugés, de façon générale. Et c'était un peu le cas, mais ça ne l'était pas non plus totalement, pour être honnête. C'est pas très concluant, pour vous dire la vérité.
Merci à Mohamed Dulad et merci à
Jeanne
pour leur libre participation à ce reportage enregistré avec la complicité du Centre interculturel de documentation.